Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mercredi 7 octobre, il est 7h01.
La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, l'hôpital public à la dérive, salaire trop bas, manque de moyens, des soignants écœurés, jette l'éponge en pleine crise du Covid. Ce sont les patients qui trinquent, témoignage dans un instant. Emmanuel Macron au chevet des sinistrés de la Roya et de la Vésubie. Cet après-midi, 5 jours après le passage de la tempête Alex, certains villages sont encore privés d'eau potable. Et puis le Covid qui frappe violemment les plus pauvres. Une personne infectée sur deux en Ile-de-France est en grande précarité. Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme.
Radio Classique.
La colère n'est pas retombée à l'hôpital Lucile Bréau. 3 mois après le Ségur de la Santé, les blouses blanches sont toujours en colère et en crise.
Oui, partout en France, des soignants écœurés, épuisés, le quitte cet hôpital public dépassé par le manque de moyens. À Paris, par exemple, 500 postes d'infirmières et d'aides-soignants sont vacants, alors que la deuxième vague de malades du Covid est là. À Marseille aussi, la situation devient critique. Un témoignage édifiant ce matin sur Radio Classique, celui de Stéphanie Tessier, sa fille, est hospitalisée régulièrement à l'hôpital de la Timone. La situation sur place est à peine croyable.
Depuis 2005, Stéphanie doit hospitaliser régulièrement sa fille polyhandicapée et épileptique sévère à l'hôpital de la Timone à Marseille. 15 ans qu'elle arpente les couloirs d'un bâtiment en plein délabrement.
Il y a des cafards dans les chambres, l'eau elle est marronâtre. Il y a 2 semaines, il y a eu des fuites d'eau où c'était une cascade d'eau dans le bâtiment.
Ascenseur en panne, fil électrique dénudé, la liste est longue et ce sont les soignants déjà en sous-effectif qui doivent gérer ces problèmes, avec forcément des répercussions sur les conditions d'accueil.
Moi très souvent je me retrouve, quand ma fille est hospitalisée, à devoir moi-même éteindre les machines. J'ai enlevé des cathéters à ma fille parce qu'il fallait l'enlever et qu'il n'y avait personne et que ça faisait plus de 3 heures que j'attendais, des soins basiques qui doivent être faits par des infirmières. Elles ne peuvent pas. Ils avaient d'autres urgences et d'autres choses à gérer.
Le pire pour Stéphanie arrive en décembre 2019. Sa fille doit enfin être opérée d'une grave scoliose. Et pourtant, le chirurgien lui annonce qu'elle sera reportée pour la 3e fois.
On nous arrête alors qu'on allait descendre au bloc en me disant il n'y a pas de place en réa, donc pas d'opération. Les soignants sont vraiment à bout. Et puis, ils sont surtout dégoûtés parce qu'ils ne peuvent plus faire leur job.
Avec seulement 17 lits de réanimation pédiatrique, 60 opérations chirurgicales lourdes ont dû être portées à la Timone en 2019, bien avant la crise du Covid.
Un dossier réalisé par Rémi Pfister en Ile-de-France. 40% des lits de réa sont désormais occupés par des patients Covid. Partout, la tension s'accroît. En déplacement hier à l'hôpital Rothschild à Paris, Emmanuel Macron a promis de ne pas laisser tomber l'hôpital.
Il est 7h03. Emmanuel Macron qui est attendu cet après-midi dans les vallées de la Roya et de la Vésubie.
Au chevet des sinistrés de la tempête Alex, d'abord à Tende, cette commune d'un peu plus de 2000 habitants toujours coupée du monde ce matin, puis à Breil-sur-Roya, devenue la base arrière des secours, et enfin à Saint-Martin-Vésubie ce soir. Avant cela, l'état de catastrophe naturelle sera officiellement décrété en Conseil des ministres. Sur place, Charles Bonner, le bilan s'est encore alourdi.
Oui, avec la découverte d'un 5e corps, celui d'une femme dans la Vésubie. Les gendarmes doivent confirmer si, dans les prochaines heures, s'ils sont décès est bien lié aux intempéries, car certains corps inanimés retrouvés sur les côtes proviennent de cimetières touchés par la montée des eaux. 8 personnes sont toujours portées disparues et 13 autres qui n'ont pas donné de nouvelles sont également recherchées. 4 villages restent enclavés, Tende, La Brigue, Fontan et Saorge, accessibles seulement par les airs. Un balai incessant d'une 15aine d'hélicoptères se relaie donc pour évacuer les sinistrés. Encore 200 hier, plus de 600 habitants secourus depuis ce week-end et 2 régiments du génie de l'armée apportent leur soutien pour rétablir les axes terrestres et rétablir l'électricité grâce à l'élitreuillage de groupes électrogènes.
Les 3 stations d'épuration ont été anéanties complètement par la tempête. L'urgence, c'est donc aussi de rétablir l'accès à l'eau potable. Cela devrait être fait ce soir à Saint-Martin-Vésubie. Un défi, explique Hervé Paul. Il est vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur et délégué à l'eau.
Samedi, nous avons fait 20 rotations d'hélicoptères pour amener de l'eau dans chaque hameau, dans chaque village. Et là, nous avons donc pu passer à la vitesse supérieure en acheminant sur Saint-Martin-Vésubie 3 citernes de 2 mètres cubes chacune. Donc ça représente 6 000 litres d'eau qui sont alimentés par une ancienne source qui a été recaptée et on a donc tiré 2 km de tuyaux pour alimenter ces réserves. Et à partir de ces réserves, on a mis en place une unité de potabilisation de l'eau qui va donc par le moyen d'une ultrafiltration nous permettre de délivrer de l'eau potable très très rapidement, dès que nous avons les résultats positifs de l'Agence régionale de santé, nous allons pouvoir donc distribuer aussi de l'eau potable.
Des propos recueillis par Rémi Vallès. Abstention record cette nuit dans les rangs de la majorité. L'Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi qui permet de réintroduire les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles pour sauver la filière betterave. 36 députés En Marche se sont abstenus, 32 ont voté contre. Bientôt, la fin du calvaire pour Sophie Pétronin, la famille de la dernière otage française retenue dans Le Monde, laisse entendre qu'elle serait libre. Ni les autorités françaises ni le gouvernement malien ne confirment l'information pour l'instant. Cette humanitaire de 75 ans avait été enlevée en 2016 à Gao, au Mali, la veille de Noël. Son fils est sur place.
Sur le front du Covid maintenant, cette enquête très inquiétante de Médecins sans frontières.
Plus d'une personne en grande précarité sur deux a été infectée par le virus, selon MSF en Île-de-France. En grande majorité, des étrangers qui représentent 90% des personnes testées par l'ONG dans les centres où elle intervient. Un chiffre qui alerte Médecins sans frontières, Camille Schmitt.
L'ONG évoque des taux de contamination de 18 à 94% dans ces centres d'hébergement ou foyers de travailleurs. Un chiffre bien plus élevé que la moyenne dans le reste de la France.
C'est 10% pour la population générale.
Bastien Molot, épidémiologiste, a conduit l'enquête de Médecins sans frontières. Pour lui, c'est la promiscuité dans ces lieux qui explique ces taux de contamination.
Plus les gens partageaient leur chambre, leur cuisine, leur salle de bain, plus ils ont eu le Covid. À partir du moment où l'unité de confinement, c'est plus le couple ou la famille et qu'on nous impose de partager notre lieu de vie, forcément on réunit les conditions pour faire des clusters.
Les répondants ont pourtant précisé qu'ils avaient bien respecté les gestes barrières dans ces lieux, mais ça n'a pas suffi selon le médecin.
On pense que le sur-risque d'être dans des conditions collectives de surdensité est tellement important qu'il va écraser les mesures barrières protectrices individuelles.
À l'approche de l'hiver, il faut donc améliorer les conditions d'hébergement de ces populations, estime Corinne Thor, chef de mission France de Médecins sans frontières.
Il va falloir réfléchir très sérieusement sur l'organisation des parties communes, la répartition des chambres en fonction de critères de vulnérabilité, puisqu'il y a quand même des personnes qui peuvent avoir des comorbidités.
Elle recommande également une meilleure information sur l'épidémie auprès des résidents de ces lieux de regroupement.
Camille Schmitt, aux États-Unis, l'annonce a fait virer Wall Street au rouge. Donald Trump a brutalement mis fin cette nuit aux négociations avec les démocrates sur le plan de soutien à l'économie. La drôle de campagne présidentielle, elle se poursuit avec le débat des colistiers. Aujourd'hui, Kamala Harris, Mike Pence s'affrontent dans l'Utah, à Salt Lake City. Et puis la mort d'une figure du rock des années 80. Sa guitare a fait crier des stades entiers. Eddie Van Halen est décédé cette nuit à l'âge de 65 ans des suites d'un cancer. Son tube Jump l'a fait connaître dans le monde entier. C'est l'hymne de l'Olympique de Marseille, par exemple, depuis 1986.
Ah, je ne sais pas si ça l'est encore.
Ah, si, ça l'est encore.
Eh ben, écoutez, vous êtes mieux renseigné que moi. Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal des Échos consacré au dossier Suez-Veolia. Et puis notre invité, juste après, Gilles Piquet-Pelors, s'il est le candidat de la famille.